This land is your land. This land is my land.
Bonjour à tous, Edgar Paysan au micro du vinyle de Radio Germaine. Je vous retrouve aujourd'hui pour lancer une nouvelle série d'épisodes dans lesquels nous explorerons à chaque épisode un pays. Au programme pour les semaines à suivre, musique de cinéma japonaise, chant traditionnel yéménite électro ou hip-hop révolutionnaire judéo-arabe en Israël-Palestine, rock celtique et rap nord-irlandais, et enfin la rencontre du mouvement punk, de l'électro et du grand froid en Islande et en Scandinavie. Cette série d'épisodes, intitulée « This Land is Your Land », petite dédicace à Sharon Jones, qu'on a entendu en intro, se fera en duo avec Enora, de Popcorn, que j'accueille aujourd'hui. Certains épisodes seront faits en solo, d'autres à deux. Bref, welcome Enora.
Salut, merci de m'accueillir.
Merci de te joindre à nous et de nous apporter ta science. Je te laisse prendre les rênes du vinyle aujourd'hui pour un épisode sur la musique japonaise au cinéma, Popcorn oblige. La BO du Japon au cinéma, entre rock, électro, animé et idolu, c'est aujourd'hui. Je vous retrouve pour ma part dans le prochain épisode avec un programme tout aussi chargé puisqu'on approchera la Palestine et Israël par la musique. Bon épisode sur le vinyle.
Bonjour à tous, ici Enora de Popcorn qui vient vous parler donc de la musique japonaise au cinéma. Je souhaite avant toute chose rappeler ici qu'évidemment le point de vue que je vais avoir tout au long de cette émission est situé occidental et évidemment dépendant de la limite de mes connaissances sur le sujet, car il est très difficile d'être exhaustive, alors j'ai dû faire un choix en alternant entre des figures plus méconnues et d'autres plus célèbres de la musique japonaise figurant au cinéma, compris dans ses formes animées ou non. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home.
今度は今度。 今は今。
今は今。
Donc je souhaitais commencer par vous parler de Perfect Days de Wim Wenders, qui est sorti en décembre et qui raconte la vie d'un nettoyeur de toilettes à Tokyo. C'est un film qui a une super playlist nostalgique des années 70 avec Patti Smith, les Beatles et plein d'autres encore. Mais il y a seulement une seule chanson japonaise, alors même que le film se passe au Japon. La chanson japonaise s'appelle Aoi Sakana, qui signifie poisson bleu. Écrite et chantée par Sachiko Kanenobu, considérée comme la première chanteuse, autrice, compositrice, interprète japonaise. Wim Wenders livre, dans une émission pour France Inter, que Kanenobu était aussi une grande héroïne au Japon et donc aussi pour Hirayama, Hirayama étant le personnage principal de Perfect Days, quand il était jeune. Les paroles de cette chanson signifient littéralement, oui, malgré mon A2 japonais, j'ai réussi à vous traduire cette chanson. Océan et poisson bleu, je les tenais tous il y a longtemps, mais maintenant seuls des vents froids passent, au travers de mes mains vides, il y a une foule d'enfants grotesques, il y a des traces de dérapage sur le trottoir, seule la lune floue, suivie des empreintes de la veille, Le bandeau fut enlevé des yeux du coq, mais ses yeux immobiles regardaient vers le ciel, puis tout s'arrêta. Ainsi, la chanson explore les thèmes du passage du temps et de la nostalgie, de voir le monde comme s'il était déformé à présent, avant de se rendre à l'évidence de cet éphémère de la vie. Des choses classiques, somme toute, mais qui néanmoins résonnent toujours autant. Cette chanson, Aoi Sakana, paraît dans son premier album, Mitsora, qui signifie « beau ciel », sorti en septembre 1972 et enregistré en seulement 7 jours, et qui remporta un vif succès au pays du soleil levant, alors même qu'aucun concert n'était prévu. Néanmoins, le succès de Mitsora de Sachiko Kanenobu retomba assez vite après cet album, sans doute dû à son départ du Japon, mais aussi à sa maison de disques Underground Record Club, qui lui préfère des hommes avec un message politique. C'était encore un monde d'hommes au Japon. URC s'est concentré sur des chansons avec des messages forts, antimilitarisme, affirmation sociale. La musique était majoritairement composée par les hommes, les femmes ont été laissées à l'arrière-plan. « J'ai attendu et attendu », a confié Sachiko Kanenobu dans une interview à Pop Matters en juillet 2019. Toutefois, Sachiko Kanenobu resta une figure culte de la musique nippone et revient à la mode de temps à autre, Mitsora restant un des meilleurs albums de l'époque poétique. L'album fut d'ailleurs réédité en 2019 par le label indépendant de Seattle, Light in the Attic. Pour la petite anecdote, le fiancé de l'époque de Sachiko était un ami de l'écrivain américain de science-fiction Philip K. Dick, qui produisit ensuite un single, Fork in the Road, Tokyo Song, de la chanteuse. Kanenobu apporta la folk au Japon, inspirée par Joni Mitchell, Bob Dylan ou Pentangle, et fut aussi une pionnière dans cette industrie musicale nippone monopolisée par les hommes. Mais après son départ aux États-Unis, elle abandonne vite la folk pour d'abord élever ses enfants, puis, après sa séparation avec son mari, crée un groupe punk, Culture Shock, où elle chante en anglais, et qui ne produisit qu'un seul album, Ceasefire, paru en 91. Nous allons ici écouter la chanson Bad Boy de Sachiko Kanenobu plus Culture Shock.
I fell down again, I don't know why. I felt that it hurts again, I don't know why. But something different at my house. I don't see any daddy's closing his closet. My mama start working every day, then the night. He always loses control when he drinks. Sometimes scare me when I hear the sound.
Sous le même label que Sachiko Kanenobu lors de Mitsora, le Underground Records Club, se trouve un autre groupe, Happy End, cofondé par Haruami Hosono, Eichi Hotaki et Takashi Matsumoto. Les deux premiers aidèrent d'ailleurs Kanenobu à produire ce premier album et ils s'entendaient bien. Leur premier album à eux, éponyme à leur groupe Happy End, sorti en 1970, donc 2 ans avant Mitsora, et contribua au grand débat sur le rock japonais, aussi appelé le Nihongo Roku Ronso, où la question centrale est « faut-il faire du rock en langue nippone ?» Ne serait-ce pas antinomique avec le genre même du rock and roll aux origines anglo-saxonnes ? Quoi qu'il en soit, Happy End va rapidement trancher, leur chanson étant en japonais. Nous allons écouter un extrait de leur chanson la plus connue, « Kaze wo Atsumete » ou « Recueillir le vent ». Cette chanson que vous venez d'écouter, Kaze wo Atsumete, paru en 1971 dans l'album Kazemachi Roman, qualifié par le magazine Rolling Stones comme étant le meilleur album de rock japonais de tous les temps. Et peut-être que vous la connaissez cette chanson, car elle apparaît dans le film de Sofia Coppola, Lost in Translation, qui prend place à Tokyo.
Ladies and gentlemen, Mr. Bob Harris.
Thanks. This is hard. I could feel at the time there was no way of knowing falling.
Sofia Coppola est connue pour son esthétique et ses BO sublimes et éclectiques, souvent aussi composées par des groupes électro comme Air ou Phoenix, étant la compagne d'un des membres de Phoenix. Et Kazuo Hatsumete est la seule chanson japonaise qui figure dans la bande originale de Lost in Translation, qui lui aussi prend place à Tokyo. Ça vous rappelle quelque chose ? Perfect Days. Kazuo Hatsumete apparaît même deux fois au cours du long métrage. La première fois lors de la scène culte où Scarlett Johansson pose sa tête sur l'épaule de Bill Murray, avec sa perruque rose et la tapisserie zèbre du bar karaoké en arrière-plan. On peut alors entendre la chanson de très loin, comme si elle émanait de la salle de karaoké, et la seconde fois, lors de la toute fin du générique de fin. Cette chanson parle du changement d'époque qui s'opère dans les années 70 au Japon, passant d'une société traditionnelle à plus moderne, en évoquant notamment l'évolution de la scène rock de l'époque, et notamment du débat du Nihongo Roku Ronso, avec le changement des mentalités. Son nom ne vous dit peut-être rien. Mais Haruami Osono, de Happy End, est aussi l'un des trois célèbres membres du encore plus célèbre Yellow Magic Orchestra, groupe culte de synth-pop japonaise qui connut un grand succès entre 1978 et 1984, et pionnier des musiques électroniques qui naquit à la suite d'Happy End. Voilà, donc là, on a pu écouter la chanson la plus célèbre du Yellow Magic Orchestra, qui s'appelle Raijin. Donc le deuxième membre du Yellow Magic Orchestra est Yukihiro Takahashi, qui connut une honorable carrière, d'abord en tant que batteur de deux groupes de rock japonais, The Four Crusaders, puis de The Sadistics, avant d'entamer une carrière solo avec son album Sarava, paru en 78, où il chante également. Cette même année, le YMO va être créé, après que ses trois membres aient collaboré sur deux albums d'Osono. Takahashi a aussi composé des musiques pour des clips, dont celui du styliste Yoji Yamamoto, pour des animés, Ghost in the Shell Arise, et pour des films, comme Le Poisson d'Avril de Nobuhiko Kobayashi. Pour Sarava, Takahashi s'est beaucoup inspiré de la pop française, et notamment de Pierre Barou, compositeur avec Francis Lai, d'Un homme et d'une femme de Claude Lelouch, inspiration française qui restera pour le Yellow Magic Orchestra. Je vais à présent vous faire écouter Present, extrait de Sarava, où Takahashi nous dit son espoir de rencontrer l'amour, répétant sans cesse « Je suis sûr que ça arrivera à toi ». Le présent est gentillesse. Nos rêves ne font que grandir. Allons rencontrer notre futur. Mais si je vous parle du YMO, ou Yellow Magic Orchestra, et de son lien avec le cinéma, c'est que son troisième membre, Ryuichi Sakamoto, est un célèbre compositeur de musique de film, décédé en mars 2023, 2 mois seulement après son ami Yukihiro Takahashi. Le dernier film sur lequel il collabora en date est L'Innocence de Kore-eda, sorti fin décembre. Parmi les BO notables de Ryuichi Sakamoto, on retiendra Furio de Nagisa Oshima, Le Dernier Empereur de Bertolucci, les morceaux May in the Backyard et Germination de Call Me By Your Name de Luca Guadagnino, Proxima d'Alice Vinocourt, The Revenant d'Iñárritu et des collaborations avec des réalisateurs comme Brian De Palma ou encore Pedro Almodovar. Nous allons ici écouter un extrait iconique de Furio, aussi appelé Merry Christmas Mr. Lawrence, connu car ayant David Bowie dans le rôle titre. Le film évoque un camp japonais de prisonniers américains sur l'île de Java lors de la Seconde Guerre mondiale. Sakamoto fait partie des rares personnalités japonaises à être engagée politiquement, selon le journal Le Monde, et a pris position à la fois sur la guerre menée par les États-Unis en Irak en 2001, mais aussi en faveur de l'environnement, ayant fondé une ONG de protection des forêts du Japon, d'Indonésie et des Philippines, prénommée More Trees. Il fait aussi partie des figures de proue du non au nucléaire au Japon, dirigeant l'orchestre des jeunes de Tohoku, formé par des enfants qui furent touchés par la catastrophe de Fukushima, et multiplie plein d'actions pour lutter contre le nucléaire, dont un méga concert en 2012 près de Tokyo, conviant non sans ironie le groupe d'électro-allemand Kraftwerk, dont le nom signifie « centrale électrique », et un de leurs singles les plus connus étant prénommé « Radioactivity ». Un des albums de Sakamoto s'appelle d'ailleurs Nagasaki Memories of My Son, qui fait référence au bombardement atomique des communes d'Hiroshima et de Nagasaki en août 1945. Nous allons ici écouter Ryuichi Sakamoto parler un peu d'écologie.
Homo sapiens has been breaking the nature and ripping off the nature and consuming the nature and just left a lot of waste. Behind, that's what we are still doing right now. I think we soon we will have to change the path. Otherwise, we'll be the whole Homo sapiens will be dead. I think so. We should find another newer, better civilization to coexist with the nature. And we should say bye-bye to nuclear.
Dans un documentaire sorti en 2019, intitulé Ryuichi Sakamoto Koda, Sakamoto se livre, après avoir survécu d'un premier cancer et apprenant qu'il en est atteint par un autre, à ses dernières confessions entre son rapport à la musique et celui à l'environnement. Pour parler de Fukushima, il évoque notamment le son d'un piano noyé et expérimente sans cesse des sons avec la nature, se rendant notamment sur la banquise, afin d'y faire résonner un iceberg. Un autre combat notable mené par Sakamoto fut celui de la relocalisation de la base américaine de Futenma à Okinawa, qui est étudiée depuis les années 90, et, le mois de sa mort, envoie même une lettre au gouverneur de Tokyo, afin qu'il empêche la construction de la base qui menacerait l'écosystème local. Une autre personnalité qui apporta son soutien à ce combat fut le grand maître de l'animation japonaise, que vous connaissez sans doute, Hayao Miyazaki, qui, dans ses films, notamment dans Princesse Mononoke, Nausicaa de la vallée et du vent ou Ponyo sur la falaise, crée aussi une ode à la nature et à la protection de l'environnement. Les musiques des films de Miyazaki et du studio Ghibli sont elles aussi en général iconiques, beaucoup composées par Joe Hisaishi. Et encore une fois, tout est lié, ce dernier étant un grand fan du Yellow Magic Orchestra, dont il s'inspire beaucoup. Hisaishi composa aussi pour Takeshi Kitano, le réalisateur d'Hanabi, ou encore de l'été de Kikujiro, à tel point que les deux sont considérés comme un tandem. J'ai récemment visionné Kids Return de Kitano. dont la bande originale a également été composée par Hisaishi. Et cette dernière souligne vraiment le film de manière remarquable. Le magazine en ligne Sabukaru Online a même catégorisé cette musique comme personnifiant une bande originale de la jeunesse. Kids Return relate l'amitié de deux garçons turbulents, Matsaru et Chinji. Leur chemin qui se sépare, l'un devenant boxeur et l'autre yakuza, avant de se recroiser à nouveau. Ce film marque le retour d'Hisaishi au cinéma après un blanc de près de 2 ans. Cette bande originale se distingue aussi des autres des films de Kitano, étant plus entraînante, plus électro, presque disco, plus jeune finalement. Pour cette bande originale, Hisaishi choisit de ne pas utiliser beaucoup d'instruments en live, mais se servit de synthétiseurs comme les Yamaha VP1 et VL1, mais fit quand même attention à avoir des parties avec des percussions, aimant à mélanger la perfection de l'électronique à l'imperfection de la musique jouée par les humains. En voici donc un extrait. Revenons à Hisaishi. S'il est autant connu du grand public occidental, c'est surtout pour sa collaboration avec le studio Ghibli de Miyazaki, dont nous avons déjà parlé. Ses bandes originales, que nous sommes beaucoup à connaître et fredonner, nous emmènent directement dans les contrées enchantées de ses contes animés. Dieu de choc liant musique et animation japonaise, le processus de travail de ce tandem est assez ritualisé. Lecture du scénario, puis discussion avec le réalisateur, enfin adaptation de la partition au tempo du film, ce qui inaugura leur fructueuse collaboration, et le premier travail d'Hisaishi, recommandé par une maison de disques sur le deuxième film de Miyazaki, Nausicaa de la Vallée et du Vent, qui s'inspire de la sarabande d'Endel, qui apparaît d'ailleurs dans le Barry Lyndon de Stanley Kubrick. Les musiques d'Hisaishi s'adaptent aux animés, étant parfois plus enfantins, comme avec la partition sutillante de Mon voisin Totoro, avant de devenir d'immenses succès populaires au Japon, certaines chansons étant même enseignées en primaire, comme Sanpo, qui est le générique de Totoro. Le sommet du tandem Hisaishi Miyazaki fut atteint avec Princesse Mononoke, fable écologique au succès international. Plus lyrique qu'auparavant, l'aria du thème principal, interprétée par Masako Hayashi, exprime la suprématie des esprits de la forêt sur le cœur humain. Miyazaki avait alors demandé à Hisaishi de s'inspirer via des poèmes et livres sur le Japon médiéval. Mélangeant les époques et les cultures, le classique à la Debussy et l'électro à la Yellow Magic Orchestra, alternant, mélangeant, s'adaptant, il n'est pas étonnant que les bandes originales d'Hisaishi soient aussi connues et iconiques. Nous pourrions aussi citer un autre duo de choc animateur-compositeur, celui composé par Satoshi Kon, le papa de Perfect Blue ou encore de Paprika, et du musicien électro Susumu Hirazawa, qui est bien moins connu que tous les autres que nous avons cités jusqu'à présent. Mais Satoshi Kon se trouvait être un grand fan d'Hirazawa depuis le début, avant même de le connaître, Hirazawa étant considéré comme une sorte de Jean-Michel Jarre japonais. Ce dernier composa d'ailleurs les bandes originales de 2 de ses longs-métrages, Millennium Actress et Paprika. Le processus de création de Satoshi Kon était d'ailleurs assez particulier. Il écrivait ses scénarios à partir de la musique qu'Hirazawa lui composait, créant ainsi une véritable symbiose entre l'anime et sa BO. Lors des funérailles de Satoshi Kon après son suicide, passa d'ailleurs la chanson Rotation de Susumu Hirazawa, thème musical de Millennium, dont nous allons écouter un extrait. Oh, 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 Les animés sont en effet un pan majeur du cinéma japonais, et ces derniers jouent un rôle important dans leur lien avec la musique, qu'on reconnaît souvent grâce à leurs génériques, comme Evangelion, One Piece, Death Note, L'Attaque des Titans, Dragon Ball Z, etc. Mais certains parlent aussi directement de l'industrie musicale au Japon, et notamment des idols, ou idoles, phénomène purement japonais de jeunes stars au succès fulgurant, portés par des maisons de disques, et à l'image ingénue et joyeuse. Victimes d'un star système adoré, surmédiatisé, ces dernières ont été produites en masse au Japon dans les années 60 avant d'inspirer d'autres pays, notamment la Corée du Sud, qui recrée maintenant des idols avec des groupes de K-pop. De nombreuses polémiques visent ce système de production d'idols, entre des heures de travail intenses, une hypersexualisation et l'interdiction d'avoir une vie amoureuse, et ce pour rester à jamais des fantasmes lointains. Le superbe et vénéneux Perfect Blue, premier film de feu Satoshi Kon, retrace l'histoire d'une idol jusqu'à sa descente aux enfers. Long métrage d'animation pour adultes, car étant un véritable thriller psychologique, on y suit Mima, chanteuse du groupe de J-pop Cham, qui décide de quitter la vie d'idol pour devenir actrice. Mais elle reçoit de plus en plus de menaces de la part d'un otaku, qui est quelqu'un de tellement passionné par un pan de la contre-culture qu'il vit replié sur lui-même, s'éloignant de toute forme de socialisation. Pur produit cinéphilique, animé se rêvant film de cinéma, Perfect Blue se nourrit d'Hitchcock, de Lynch ou encore de Dario Argento, tout en inspirant le Requiem for a Dream d'Aronofsky, de par ses plans, tous plus fous et cinématographiques les uns que les autres.
タレントを守るのは私たちの仕事でしょ。
ねえ、ミマ、もしかして嫌がらせとかされてない？
私、もう自分のことがわからない。
Perfect Blue pointe donc du doigt le phénomène des idols, de la J-pop, prétexte pour effectuer une critique d'une société japonaise pouvant se révéler fanatique et des dérives de la célébrité. Dans son essai, l'adolescente japonaise ou l'impératrice des signes, que je vous conseille, car très clair, très intéressant et donnant beaucoup de conseils à la fois musicaux, cinématographiques et littéraires, Stéphane Duménildo nous parle du film Perfect Blue en ces termes. Perfect Blue, l'animé de Satoshi Kon datant de 1997 est basé sur des groupes antérieurs comme l'Onyonko Club ou les productions d'Hello Project Morning Musume, étudiaient déjà de façon glaçante le rapport entre les otaku et les idolou. Mima, chanteuse d'un célèbre girls band, quittait son groupe pour devenir actrice. Elle était alors harcelée par un fan qui voyait dans son adieu au monde shoujo une trahison et le signe d'une irréversible corruption. Infantilisée, animalisée, tout vient rappeler à ces jeunes filles qu'elles ne sont pas libres, nous dit-il à la page 72 de cet essai. Dans la même veine de décryptage de cette production d'Idols, nous pourrions citer un autre animé, Oshinoko, adapté d'un manga d'Aka Akasaka. Différent de Perfect Blue à la fois dans sa forme, qui est sous forme de série, même si les épisodes durent 90 minutes, donc vraiment la durée de Perfect Blue, et dans son point de vue, car il est narré de la perspective d'un fan de l'idol et non pas de l'idol elle-même comme de Perfect Blue, Oshinoko est surtout connu pour sa musique de générique. Cette dernière, sortie sous forme de single en avril 2023, est intitulée Idolu et chantée par le groupe Yoasobi, duo formé en 2019 par le label Sony Music Entertainment Japan et composé d'Ikura et Ayase, et qui connut ses premiers succès lors du confinement.
我々は花からおまけです。お星様の引き立て役 B です。 全てがあの子のおかげなわけない。しょらくさい妬み嫉妬なんてないわけがない。これはネタじゃないからこそ許せない。完璧じゃない君じゃ許せない。自分も許せない。誰よりも強い君。
La chanson eut un succès phénoménal au Japon, restant plusieurs semaines d'affilée en tête des charts. Et même à l'étranger, notamment aux États-Unis, Idol fit des records d'audience. Son motif musical, de la J-pop teintée de notes plus hip-hop, et même de chorale d'église gothique, est censé représenter la double vie de l'idol que l'animé dépeint, représentant parfaitement ce dernier. Ainsi, musique et cinéma sont constamment entrelacés, l'un surlignant ce que l'autre a besoin de mettre en lumière. Et la musique japonaise, forte de genres et de personnalités variées, a su s'imposer au cinéma, qu'il soit national, avec Takeshi Kitano, Satoshi Kon, Hayao Miyazaki, Nagisa Oshima, ou bien étranger, avec Sofia Coppola, Wim Wenders, Alice Vinocourt ou Luca Guadagnino. Consciente que ce que je vous ai présenté était parcellaire et qu'il faudrait des heures de podcast pour s'assurer à quelque chose de plus complet, j'espère quand même que l'épisode vous aura plu et que vous aurez appris des choses, entendu des morceaux que vous écouterez en boucle, ou bien donné des idées pour des prochaines movie nights entre potes. Et c'est sur ces belles notes que nous nous disons au revoir, ou plutôt, sayonara.